Pourquoi dit-on que Jésus est assis à la droite du Père ? Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Ainsi se termine l'évangile de Marc. Une expression qu'on retrouve dans le symbole des apôtres. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. En se servant de cette image, de la session de Jésus à la droite du Père, les disciples de Jésus pensaient au psaume 109 que Jésus avait utilisé pour justifier dans les dernières semaines de son ministère l'audace avec laquelle il parlait de ses prétentions divines. Comment David a-t-il pu dire, en parlant du Messie à venir, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis dessous tes pieds. » Quel est donc ce personnage, fait remarquer Jésus, que David appelle « Seigneur », le nom réservé à Dieu, qui peut s'asseoir à sa droite et voir sous ses pieds tous ses ennemis vaincus. Si donc, poursuit Jésus, David appelle le Messie « Seigneur », comment peut-il être en même temps son fils ? Jésus sortait victorieux de cette ultime confrontation avec ses adversaires, puisqu'il venait de leur prouver par un simple commentaire de texte qu'il avait tout à fait raison de se présenter comme l'égal de son Père, puisqu'un psaume avait prévu depuis des siècles que le Messie à venir, fils de David, mériterait d'être appelé Seigneur. Aussi, continue l'Évangile, personne ne fut capable de lui répondre un seul mot, et à partir de ce jour-là, nul n'osa plus l'interroger. En affirmant que Jésus est assis à la droite du Père, ses disciples sont heureux de proclamer que Jésus est vraiment le Messie divin annoncé par le psaume. On comprend que Luther considérait ce psaume comme le psaume principalis, le psaume principal, du fait qu'il était l'un des plus clairs à proclamer la divinité du Messie à venir. Dire que le Christ est assis à la droite du Père, c'est affirmer aussi qu'après être descendu du ciel pour nous les hommes et pour notre salut, le Fils bien-aimé du Père y est remonté avec son corps et qu'il y est pleinement transfiguré. Dire qu'il est assis à la droite du Père, c'est annoncer aussi qu'il nous donnera de nous asseoir avec lui sur son trône, comme il s'est assis avec le Père sur le sien. Il nous y prépare une place. Dire qu'il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, c'est proclamer enfin qu'il participe à la sagesse infaillible avec laquelle Dieu mène le monde. Ce que signifie l'icône du Christ Pantocrator, Tout-Puissant, où le Christ assis sur un trône bénit les hommes de la main droite tout en tenant dans l'autre le globe de l'univers. C'est le merveilleux mystère de la Providence que chantent tous ces chapitres de l'Apocalypse qui considère les persécutions que subissent les chrétiens à travers l'Empire romain comme des épreuves permises par Dieu. C'est avec la permission explicite de l'agneau de Dieu, adoré par tous les saints et tous les anges du ciel, que s'élancent à travers le monde les chevaux fantastiques et la bête terrible ayant sept têtes et 10 cornes qui répandent la terreur à travers le monde. Mais ces persécutions auront un terme, car un jour viendra où l'agneau remportera une victoire totale sur toutes les forces du mal qui semblent plus fortes que lui sur la terre. Dans le ciel, les 24 vieillards qui se prosternent devant lui voient parfaitement que le Père ne s'est pas contenté de le faire asseoir à sa droite. Il a mis toutes choses à ses pieds. C'est pourquoi dans le ciel, personne ne déprime. En voyant toutes les horreurs qui se passent sur terre, il contemple émerveillé ce formidable pouvoir que Dieu possède de faire advenir le bien à partir des maux les plus affreux. Mais avant cette victoire finale, le Christ reste devant son Père, le grand prêtre, qui ne cesse d'intercéder en faveur de tous ceux qui par lui s'avancent vers Dieu. Il est le centre et l'acteur principal de la liturgie qui honore le Père dans les cieux.